Chers camarades et amis, avant de passer la parole à notre camarade Nathalie Arthaud, je voudrais dire quelques mots sur la situation en Lorraine. Comme partout dans le pays, ce qui marque la situation des travailleurs, c'est la hausse du chômage. 150 000 travailleurs de Lorraine en Lorraine se retrouvent aujourd'hui sans emploi. C'est le plus grand nombre de chômeurs que la région ait connu depuis 14 ans. Cet accroissement du chômage est le fruit de la politique des grands groupes industriels. Prenez le groupe PSA Peugeot Citroën, il possède deux usines autour de Metz, celle de Fabry qui fabrique des moteurs, celle de Bordy qui fabrique des boîtes de vitesse. On n'entend pas bien, non?
Non. Peut-être que je peux le prendre dans la main. Je ne sais pas si vous parlez bien en face.
Je vais faire le visuois aussi.
L'essentiel, c'est de ne pas oublier les camarades invalides des oreilles, des tabacs et qui n'ont pas d'argent. Ils ont 8000 euros de ville pour s'acheter une prothèse auditive.
Ah,
ils vont promettre de ne pas être invité et comprendre.
Bon, camarade, je vais faire un effort.
Merci.
En 10 ans, rien que sur les deux usines de Trébry et donc de Borny, qui est les usines de PSA, PSA a supprimé plus de 1500 emplois. Oh, il n'y a pas eu d'annonce de licenciement puisque cela s'est fait en douce par le renvoi de 1100 intérimaires sur les deux usines et la suppression de plus de 400 postes fixes par des départs arrangés. Ces emplois fixes supprimés sont des emplois d'ouvriers, bien sûr, mais aussi d'employés, de techniciens, d'agents de maîtrise et de cadres. À l'usine PSA de Borny, c'est 20% de l'effectif cadre qui a disparu. C'est dire que les suppressions d'emplois touchent tous les salariés, de l'ouvrier à l'ingénieur, personne n'étant à l'abri de la rapacité des grands groupes capitalistes. Ils ne suppriment pas les emplois parce qu'il n'y a plus de travail. Bien au contraire, PSA a connu l'an dernier son record des ventes et les caisses sont pleines puisque le groupe avoue une trésorerie de 11 milliards d'euros. Sans compter que le principal actionnaire, la famille Peugeot, a accru sa fortune l'an dernier de 740 millions d'euros, soit 2 millions tous les jours. La fortune des Peugeot est la 15e fortune de France. Elle ne s'est pas faite toute seule. Elle est le produit de l'accélération des cadences et des charges de travail de tous les salariés du groupe. Chaque tendinite, chaque dos abîmé, chaque travailleur qui pète les plombs, comme on dit, parce qu'il n'en peut plus des rythmes de travail, a rapporté une part de ces millions que les grands bourgeois comme les Peugeot accumulent sur l'exploitation des travailleurs. Et ils nous promettent que cela va continuer en pire. PSA vient ainsi d'annoncer un nouveau plan de suppression d'emplois, 6800 au total. Tout cela pour réduire des coûts, les coûts comme ils disent, et économiser 800 millions d'euros. Le comble du cynisme de la direction de PSA, c'est qu'ils ont fait cette annonce quelques heures à peine après avoir annoncé une nouvelle augmentation du chiffre d'affaires du groupe pour le troisième trimestre. Alors oui, il y en a assez que nos emplois passent à la moulinette pour générer leurs profits, d'autant que le chômage atteint aujourd'hui des niveaux records. Les patrons de la sidérurgie ont participé pour leur part, et même plus que leur part, à cette aggravation du chômage. Voilà 40 ans que patrons, économistes, politiciens et journalistes à leur service parlent de la crise de la sidérurgie. De plan de suppression d'emplois en plan de suppression d'emplois, 100 000 postes de travail ont été supprimés en 40 ans. Et pas parce qu'on ne produit plus d'acier dans notre pays, comme voudraient nous faire croire ceux qui sont plus sensibles à dénoncer la responsabilité des autres pays, plutôt que la rapacité des grandes familles bourgeoises. Non, on produit aujourd'hui en France autant d'acier qu'il y a 40 ans, entre 15 et 25 millions de tonnes par an, selon les années et la conjoncture. Les suppressions d'emplois ne sont pas dues à une délocalisation de la production d'acier dans d'autres pays. Elles sont dues, comme dans la plupart des branches, aux restructurations, à l'aggravation des rythmes de travail, et surtout au progrès de la productivité du travail humain. Mais tout le bénéfice de cette augmentation de productivité est transformé en milliards qui vont sur les comptes des actionnaires des trusts sidérurgiques au lieu de servir à travailler moins et à gagner davantage. Les bénéfices d'ArcelorMittal se sont montés à 1,8 milliard d'euros, rien que sur les 6 premiers mois de l'année. Certes, le groupe s'attend à un avenir moins doré, et c'est en prévision de cela qu'il taille dans les usines et les effectifs. Ainsi, après avoir annoncé la fermeture provisoire de plusieurs fourneaux en Europe, dont ceux de Florange, il vient de décider l'arrêt définitif des hauts fourneaux de Liège, ce qui entraîne la fermeture également de la scierie. En Belgique, cela se traduira par la suppression de 600 emplois directs et jusqu'à 2000 en comptant les sous-traitants. Pour justifier la fermeture de Liège, ArcelorMittal explique que la fonte produite loin des mers coûte trop cher du fait de l'obligation de transporter depuis les ports maritimes le minerai de fer et le coke nécessaire à sa production. On connaît l'art des patrons pour faire dire aux chiffres ce qu'ils ont envie, eux, d'entendre. Alors ArcelorMittal explique ainsi que le coût de la tonne d'acier produite à Liège lui revient 50 euros de plus la tonne par rapport à celle produite à Foss ou à Dunkerque. À Florange, ce surcoût, selon ArcelorMittal, serait de 40 euros la tonne. Mais même avec ce surcoût, les hauts fourneaux de Liège sont largement bénéficiaires. L'an dernier, selon les chiffres de la direction, ils ont rapporté 35 millions au groupe ArcelorMittal, le record de profitabilité de leur histoire. C'est dire que la seule raison de ces fermetures d'installations, totales ou partielles, n'est absolument pas à cause de leur prétendue non-rentabilité. La seule raison, c'est qu'ArcelorMittal ne veut pas faire seulement des bénéfices, mais le maximum de bénéfices, quitte à saccager des régions entières. C'est pourquoi les travailleurs de la sidérurgie ont le droit moral d'exiger le maintien en activité de tous les sites industriels, l'interdiction de tout nouveau plan de suppression d'emplois, ainsi que le partage du travail entre tous, sans baisse de salaire. C'est cela qui devra être au cœur des prochaines luttes des travailleurs de la sidérurgie si nous ne voulons pas que le chômage s'accroisse et que de nouvelles friches industrielles s'ajoutent aux friches actuelles. Mais ce qui agite le monde politique de la droite à la gauche, c'est le projet de faire de Florange un site pilote pour produire une fonte soi-disant propre, en diminuant le dégagement de CO2 dans l'atmosphère. Plus les industriels polluent la planète, plus l'écologie et l'environnement deviennent le prétexte pour justifier les aides des pouvoirs publics. Le projet serait donc de capter le gaz carbonique qui sort des hauts fourneaux pour l'enfouir dans le sous-sol. Cela permettrait de réduire de moitié la quantité de CO2 émise, mais plusieurs associations s'élèvent déjà contre le danger potentiel pour l'avenir de tout ce CO2 stocké sous terre. Un tel projet existe pour les hauts fourneaux de Florange, mais sa réalisation est conditionnée de part par le fait qu'ils sont en activité et d'autre part par l'obtention de crédits, en particulier de l'Union européenne, qui doit en décider l'année prochaine. Bref, pour qu'ArcelorMittal envisage de maintenir ses hauts fourneaux, il faudrait une nouvelle fois que les pouvoirs publics passent à la caisse. Et ils sont d'accord, même si ce n'est pas encore fait. Le gouvernement français lui-même vient de redire qu'il était prêt à mettre 150 millions dans l'affaire si l'Union européenne valide le projet et apporte les 260 millions prévus. Et bien sûr, ensuite, régions et départements aligneront les millions des contribuables pour ArcelorMittal. Comme quoi, si les pouvoirs publics n'ont jamais un centime quand il s'agit des écoles, des logements, de la santé, ils savent trouver des centaines de millions pour aider un groupe aussi riche qu'ArcelorMittal. Lors des primaires socialistes, tous les prétendants du PS sont venus à Florange. Martine Aubry a appelé Sarkozy, et je la cite, à agir enfin pour la sauvegarde de nos usines. Demander à Sarkozy de sauver des usines, alors qu'il a aidé Mittal à fermer la scierie de Grandrange, c'est demander à l'incendiaire de jouer aux pompiers. aussi, on a eu les colonnes royales qui s'adressant aux travailleurs de Florange et à la population, les invitaient, je la cite, à tenir jusqu'en 2012. Mais quelle perspective ? D'abord, rien ne dit que d'ici là, ArcelorMittal ne va pas transformer la fermeture de Florange de provisoire en définitive. Et puis, même si le PS gagnait le présidentiel, la présidentielle, que ferait-il pour obliger Mittal à maintenir le site en activité ? Rien. L'expérience du passé le démontre amplement. Et aujourd'hui, le PS ne s'engage de toute façon à rien. François Hollande, lui, se fait fort d'intervenir auprès de l'Union européenne pour qu'elle ouvre au plus vite et au plus grand sa bourse, c'est-à-dire l'argent de la collectivité. Bref, le même discours et la même attitude qu'un autre ancien dirigeant du PS, Éric Besson, devenu aujourd'hui ministre de l'Industrie de Sarkozy. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il a fait dans le même registre que ses anciens compères du PS, lors de sa venue à Florange, en plus à gauche, en plus nationaliste aussi, vantant dans la presse la puissance de notre pays et surtout la chance que nous avons de pouvoir bien voter. Ou de pouvoir voter bientôt, pardon. Alors non, le sort des travailleurs ne se jouera pas dans les élections à venir. C'est fabriquer des illusions que de le laisser croire et ce n'est pas préparer les esprits aux luttes indispensables que les travailleurs devront mener pour faire valoir leurs intérêts vitaux. Quel que soit le président qui sortira des urnes en mai prochain, cela ne changera rien au sort des travailleurs de la sidérurgie. Oui, il faudra des luttes sociales puissantes. Le patronat le sait bien. Et il y en aura car elles sont inéluctables ces luttes, vu l'évolution de la crise. Et c'est aussi pour cela qu'il tape sur tout ce qui bouge. La semaine dernière, c'était le patron du Cora de Mont-de-Lange qui voulait licencier une militante syndicale de la CGT, accusée d'avoir ramassé un ticket caisse abandonné par une cliente qui comportait une réduction. Voilà le crime reproché à cette militante syndicale. Voilà le prétexte invoqué par le patron pour se débarrasser d'une syndicaliste. Devant les protestations, la direction a finalement reculé et n'a pas licencié la caissière. Mais ce fait témoigne de l'agressivité de certains patrons qui se croient vraiment tout permis et ne tolèrent pas l'opposition. L'arrogance et l'agressivité patronale pèsent sur tous les travailleurs. On vient d'en avoir l'illustration avec la tentative de suicide à la blanchisserie des hôpitaux de Metz, à deux pas d'ici. Une salariée a fini par craquer et a tenté, heureusement, sans y parvenir, de mettre fin à ses jours la semaine dernière sur son lieu de travail. La CGT a organisé un débrayage pour dénoncer l'aggravation des conditions de travail. La direction, interrogée sur cette tentative de suicide par la presse locale, a refusé de répondre, ce qui est en soi un aveu. Alors ce qu'il faut préparer, ce sont les luttes collectives. Et il y en aura. Et les patrons seront les premiers surpris, même si aujourd'hui, ils se sentent tout permis. À la Sauvable où je travaille, nous sortons tout juste de près de 2 semaines de grève. Et le directeur de l'usine a avoué qu'il ne s'attendait pas à un conflit aussi dur. Et j'espère tout simplement qu'il n'a encore rien vu. À la Sauvable, nous fabriquons le master pour Renault. La direction voudrait produire 160 000 véhicules l'an prochain, contre 115 000 cette année, comme quoi, malgré la crise, les affaires des patrons ne vont pas si mal. La Sauvable, d'ailleurs, fait partie du groupe Renault, un groupe qui a fait 1,25 milliard de profits au premier semestre. Pour arriver à la production record prévue l'an prochain, la direction voulait imposer des augmentations de cadence et de travail. En guise de compensation, elle proposait une prime ridicule, unique de 250 euros brut, ce qui a fait déborder le vase. Et en effet, les salaires ont baissé à la Sauvable du fait de la diminution des primes d'intéressement. Ainsi, depuis 2008, les travailleurs ont déclaré en net imposable 2 000 euros de moins chaque année. La grève a démarré dans l'équipe de nuit lundi 3 octobre. La revendication était une prime de 200 euros net par mois pendant l'application des nouveaux horaires et une prime de 1000 euros pour compenser la baisse des salaires. Très vite, l'usine a été bloquée par des piquets de grève, la production étant totalement arrêtée. La grève est restée minoritaire, mais la direction a fini par reculer en partie, lâchant 450 euros net de prime, le paiement de 15 heures de grève, l'étalement des retenues pour grève à raison de un jour par mois, et elle a laissé tomber les principales modifications d'horaire envisagées. Autant dire que, si le succès n'est pas total, c'est tout de même un sacré recul qui a été obtenu. Face à un patron qui dénonçait une grève minoritaire et clamait qu'il ne céderait pas un centime, les grévistes ont le sentiment justifié d'avoir marqué des points. La reprise du travail s'est faite avec un bon moral, la plupart se disant qu'il faudra remettre cela. C'est un encouragement pour les luttes à venir qui, au vu de la situation générale, ne manqueront pas de survenir dans les mois qui viennent. En effet, le problème des salaires est toujours d'actualité. À la Sauvade comme ailleurs, nous n'échapperons pas à la nécessité de lutter pour une augmentation générale des salaires. Il faudra aussi imposer l'indexation des salaires sur les prix, afin que, dès que les prix augmentent, les salaires suivent. C'est la seule façon de maintenir le pouvoir d'achat de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. Là-dessus, je passe la parole maintenant à notre camarade Nathalie Arthaud.